Forêt. Live.
Avec Dominique Moret.
Pourquoi pas?
Dan Gravel.
Et Doom Dumas. Radio X.
Donald Charrette.
Qu'est-ce qui se passe en ville?
In the city with Donald.
Avec Donald Charrette.
Donald, comment ça va?
Ah, très bien, vous autres.
Oui, très bien, merci. Grosse fin d'année. En fait, l'actualité n'a pas dérougi jusqu'à la semaine passée. Encore cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se brassent. Je veux qu'on commence par ce qui se passe ici dans la ville de Québec, parce que hier, deux nouvelles qui sortent. On commence les travaux pour le tramway. On commence ça dans le Vieux-Québec, en plein hiver, dans le coin de la rue Cartier, en février. Voilà, c'est commencé, Donald. On ne peut plus reculer.
Ben écoute, malheureusement, je pense que le dossier avance malgré nous, là, malgré l'opposition des citoyens, je pense. Là. Alors, ce qu'on annonce maintenant, c'est une série de travaux, entre autres sur la rue Cartier,
oui.
Sur quatre bourgeois aussi. Là. Puis peut-être qu'on va commencer aussi cette année sur la première avenue. Alors, attendez-vous à avoir la congestion routière, parce que là, il va y avoir des travaux en même temps, un peu partout. Là. Et ce qui est un peu, évidemment, on le déplore, là, même si le financement n'est pas attaché, il n'y a rien de fédéral qui est vraiment attaché. D'ailleurs, je vous signale que dans le Journal de Québec, ce matin, on pose des bonnes questions là, sur le travail. Oh,
oui. Ça aurait été
le
fun que ça soit fait pendant la campagne.
Ouais.
Ah, on a oublié.
C'est des questions c'est très pertinentes. Puis une chose qui m'étonne un peu, là, on dit que bon, un des volets les plus controversés du tramway, c'est le tunnel au centre-ville.
Oui.
Parce que d'après même les études, ils disaient que c'est la partie, même rappelle Daniel Genet, disait que c'est la partie la plus risquée du tramway.
Oui.
Donc, c'est supposément que ça a été étudié, puis que donc c'est un tunnel de 1,5 km qui partirait du Grand Théâtre, qui passe en dessous de la terre et qui débouche près du jardin Jean-Paul Lallier. Alors, ce tunnel-là, il est supposé coûter quelque chose comme 1 milliard. Tu sais, les prévisions, c'est ça. Et on ne sait même pas comment il va être exécuté. Puis encore un matin, on se dit, est-ce que ça va être dynamité? Si oui, selon quelle forme, etc. Et ce qui m'étonne un matin, c'est que là, on dit qu'on ne sait pas si on va le réaliser à la fin du tramway ou au début des travaux.
Ah,
ça veut dire,
non, on ne sait rien.
Mais ben là, on ne sait pas. Là, ils le font-tu maintenant? Parce que moi, je pense qu'ils hésitent à le faire parce que ça va vraiment bloquer le centre-ville à côté de l'Assemblée nationale. On parle des travaux qui ont duré 3 ans. Là. Alors, tu sais, on ne sait pas si on va le faire au début ou à la fin. Alors, pour un projet qui supposément a été étudié au millimètre près, qu'on a étudié en long et en large, on ne sait même pas quand est-ce qu'on commence.
Absolument. Et... Dans le journal ce matin, ça fait exactement partie des questions qu'on se pose. Ça. C'est quoi la séquence précise des travaux? C'est un méga projet. Bon, on n'a aucune idée de la séquence précise des travaux. Mais on commence ça, là, on commence dans 2 semaines.
Oui, oh, et puis il parle de travaux dès le mois de janvier, là, au coin de la rue Cartier, etc. Puis je vous rappelle aussi, dans ce coin-là, on parlait aussi d'une voie réservée. Là. En plus du tunnel, il y a une voie réservée. C'est-à-dire qu'à partir de la rue Cartier, la priorité serait aux piétons
ouais.
Et aux cyclistes. Ça veut dire qu'à partir de là,
La rue partagée, là.
La rue partagée, exactement comme sur la rue Saint-Olivier. C'est
qui
le même principe.
Flop, là.
Ouais. Alors, que les gens de la rue Saint-Olivier protestent en disant, regarde, il n'y a plus de trottoir, puis on risque de se faire frapper par les autos, parce que là, c'est vraiment le piéton en premier, ou le cycliste. Alors, les autres, allez vous faire voir. Là. Alors, c'est ça qui s'en vient.
Ben, en fait, juste, je vais préférer la précision, Donald, là. Ce qui s'en vient dans le coin de la rue Cartier au mois de janvier, c'est la construction des infrastructures. On parle que c'est un contrat qui est lié au rail également. On n'a pas de conception détaillée, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire depuis tantôt, mais on dit cependant, inquiétez-vous pas, là, le gros rush des travaux, on va faire ça après Saint-Valentin, pour que les restaurateurs ferment. En fait, on veut juste dire aux restaurateurs, vos gueules, on va faire ça après Saint-Valentin. Ça va être correct après, juste à temps pour la Sainte-Pâte.
Ben oui, puis écoute...
Ça va bien aller.
Et je vous rappelle que j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une séance d'information sur la première avenue et les gens posaient des questions, il n'y avait aucune réponse. On leur disait, écoutez, on ne peut pas répondre, c'est la Caisse de dépôt qui est maître d'œuvre. Donc, la Ville n'avait pas de réponse à fournir aux citoyens sur combien de stationnements vont être enlevés, est-ce qu'il y aura une compensation pour les marchands, combien de temps vont durer les travaux. Alors, ça demeure aussi opaque que ça l'était. Et on a très peu de réponses. Et malgré tout ça, ben, on annonce une série de travaux. Alors, en 2026, là, attendez-vous à ce que la congestion aux extrémités de la Ville de Québec.
Oui, parce qu'on parle de ce qui va se passer dans le Vieux-Québec, mais ce printemps également. On va lancer un chantier pour le tramway sur le chemin des Quatre-Bourgeois, dans le coin du boulevard P12 et du Plessis, là, vraiment dans le coin de Place Navillaise. On dit que c'est une grosse année de travaux qui aura lieu partout dans la région de Québec pour le méga projet Tramcité. Voilà, on est parti.
Écoute, je pense qu'il faut que je fasse le lien parce qu'il y avait un texte en fin de semaine intéressant dans le Journal de Québec de Michel Girard sur le financement du REM à Montréal.
Oui.
Bon, alors ça, le financement du REM à Montréal, c'est un peu le financement qu'on devine qu'on aurait à Québec avec la Caisse de dépôt. Parce que c'est la Caisse de dépôt. Alors, ce que Michel Girard explique dans son texte en fin de semaine, c'est que le gouvernement du Québec s'est fait avoir par la Caisse de dépôt. Alors, oui. Parce qu'il a fait financer le REM à Montréal par la Caisse, en contrepartie, la Caisse va chercher du rendement de 8 %. Alors, lui, il a calculé que sur la durée du contrat, le gouvernement du Québec va rembourser 19 milliards à la Caisse de dépôt.
Mm-hmm.
Alors, il calcule que lui, le Québec, a perdu à peu près 9 milliards. S'il avait financé lui-même le REM à Montréal, là, il aurait sauvé 9 milliards de dollars.
Mais tu te souviens qu'on ne pouvait pas le financer nous-mêmes parce qu'on n'avait pas d'argent.
Alors, c'est ça.
Ce qu'on craignait à ce moment-là, la raison pour qu'on a pitché ça dans le cours de la Caisse de dépôt, c'est qu'on craignait la décote. C'était vraiment ça, oui. Que le gouvernement Couillard. Donc, on a fait, bon, on n'a plus de cash, on veut faire absolument le REM. Caisse de dépôt, ils ont du cash, eux autres, go!
Oui, puis c'est ce qui est arrivé à l'origine. Moi, je me rappelle, c'est quand Philippe Couillard, à l'époque, il avait rencontré Michael Sabia, le boss de la Caisse de dépôt, puis il avait dit, j'aimerais ça faire un transport en commun à Montréal, mais j'ai pas d'argent. Et Sabia avait dit, gut, je vais te financer ça, moi. Ah, c'est comme ça que ça a parti. Mais ce que Michel Girard explique, c'est que c'était un mauvais deal, et là-dedans, dans le fond, c'est le public qui paye le public. Parce que la Caisse se défend en disant, oui, mais on va avoir du rendement de 8 %. Oui, mais c'est de l'argent de nos fonds de pension. Oui,
c'est ça.
Et de l'argent du gouvernement, parce qu'au bout de la ligne, le gouvernement paye, dans le cas du REM, 85 % de la facture du transport en commun. 85
%. Puis tu vois, matin, qu'on leur donne une bascule, je pense que c'est dans la presse, j'ai lu ça. Ah, je devrais peut-être pas le dire dans les médias, je me souviens plus c'est où je l'ai lu. Mais écoute, l'heure du midi revit à Montréal grâce au REM, Donald. On est vraiment en train de dire, grâce au REM, là, les restaurants ont recommencé à avoir un menu midi puis à avoir du monde.
Oui, mais ça, c'est grâce au REM de Montagne.
Oui, la deuxième partie.
Alors,
ouais.
C'est celui-là qui amène les gens de la banlieue. Là. Les gens, en fait, ils n'allaient plus à Montréal parce qu'ils ne réussissaient pas à stationner ou à rentrer au centre-ville. Alors, c'est vrai que ça a un effet, mais je pense que c'est le volet de Montagne qui est rentable là, parce que c'est la nouvelle partie. Là,
oui. De Montagne, c'est très, très rentable. C'est... En fait, je vais arrêter avec mes jokes de mon oncle. Il est 8h08. Il est 8h08. La 20. Parlons de la 20. Parce que j'ai l'impression que la CAQ, qui perd de plus en plus d'hommes, veulent absolument cibler la rive sud de Québec comme étant là où on va rester en vie. Tu sais, ils essaient de se trouver une espèce de cachette pour tabarnouche. On ne peut pas passer de un des plus grands gouvernements, une des plus grandes majorités de l'histoire à
rien.
Rien partout.
Ils veulent sauver Bernard Drainville.
Je pense que oui, ça ressemble beaucoup à ça parce que là, on annonce l'élargissement de la 20 sur le Dodelon dans tout le secteur de Lévis. On a perdu Christian Dubé. Ça va pas bien la fin de l'année à la CAQ, Donald.
Ah non, tout à fait. Christian Dubé, effectivement, c'est un coup dur. Là. Mais ceci dit, sur la 20, oui, t'as raison. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un problème de congestion. Puis vous le savez, ceux qui restent à Rive-Sud, la congestion est là. T'sais. Alors, je pense que c'est attendu depuis longtemps. Puis je pense que c'est un bon investissement. C'est de l'autoroutier. Mm-hmm. Mais tu sais, quiconque a circulé dans ce coin-là...
La fin de semaine,
absolument.
L'été...
Est désespéré, là, en fin d'après-midi, tout ça, là, c'est désespérant. Oui. Alors, je pense que oui, il fallait qu'il fasse quelque chose, puis il ne pouvait pas se présenter devant les électeurs.
Le 26-27 décembre, à 2h de l'après-midi, sur la 20 direction ouest, ça va être jamais, parce que le monde va revenir de leur réveillon de Noël, puis ça va être jamais à Lévis.
Alors ça, c'est d'autres travaux, mais je pense que dans ce cas-là, je pense que c'est justifié, puis je pense qu'il fallait faire quelque chose. Mais je pense que la CAQ voulait avoir quelque chose à présenter aux électeurs au mois d'octobre prochain.
Mais c'est-tu quoi? J'ai le feeling que ça sera même pas la CAQ qui va avoir le gain politique de ça. Là. Je pense que ça va être beaucoup Gilles Laulier qui est plus là, puis Stephen Blaney qui vont l'avoir. Parce que c'est eux autres qui se sont battus pour ça.
À suivre, sauf que ça, ce que ça va donner, on le sait pas, mais ce qu'ils essayent, on le sait.
Oui.
Ils veulent se sauver, puis ils veulent le faire par la Rive-Sud. Christian Dubé qui a démissionné un vendredi, juste avant Noël. C'est un coup de cochon.
Ben écoute, moi, je ne suis pas surpris de la démission de Christian Dubé. Je pense que de toute façon, il avait été identifié comme l'obstacle dans les négociations. Puis il avait été, on l'a dit, il avait été tassé là, par François Legault. Là. Et tu sais, je vous rappelle juste une petite anecdote. Là. En pleine négociation avec les Omnis, là, M. Dubé est parti 4-5 jours en Floride.
Oui.
Alors, tu sais, moi, j'ai rien contre ses vacances, c'est pas ça, là. Mais tu vois que là, le gars, il n'est pas décisionnel, là. C'est-à-dire, il a été tassé, puis même au plus fort des négociations, c'est pas lui qui négociait, c'est Mme Duranceau, puis c'est François Legault. Alors, tu sais, je pense que lui, il a été, honnêtement, Christian Dubé a été humilié dans cette affaire-là. Puis je pense qu'il a pris la seule décision logique, c'est-à-dire de démissionner, parce qu'en fait, il a été répudié par son chef, là, et il n'avait pas le choix. Moi, ce qui m'a étonné là-dedans, par contre, c'est qu'il démissionne du caucus. C'est que...
Oui. Ben c'est ça. Est-ce que
c'est un coup de cochon qui a été fait à...
Ça, c'est une vengeance, je pense, contre François Legault et contre ses collègues caquistes. Je pense que s'il y a eu un règlement avec les médecins, c'est parce que je pense que les députés ont fait pression sur François Legault. Alors, lui, il s'est senti trahi par ses collègues caquistes. Fait que là, il leur fait un doigt d'honneur en disant, écoutez, là, moi, je m'en vais, là. Puis il faut siéger comme indépendant. Je suis même plus membre du caucus de la CAQ. Là.
Mais il y a déjà un vieux sage qui m'a dit, dans le monde de la radio d'ailleurs, ce qui est le plus humiliant de se faire tasser, c'est de regarder par qui tu te fais remplacer. Et je pense que c'est ça qui a humilié Christian Dubé, qui était reconnu comme étant l'homme fort de ce gouvernement-là avec Pierre Fitzgibbon au départ en 2018 quand il s'est présenté. Puis là, il s'est fait tasser par France-Hélène Duranceau, qui était plus connu depuis le début du mandat de la CAQ de par ses souliers Louboutin que de par ses accomplissements. Je pense que ça aussi, ça a joué en la défaveur de la CAQ.
Ben, tout à fait. Puis Mme Duranceau, disons que l'habitation, ça ne va pas être un succès. Là,
en plus.
Alors, elle avait été beaucoup critiquée. Elle se révèle un peu au Conseil du Trésor. Mais effectivement, c'est une junior. Là, dire, vraiment, c'est pas du même niveau à première vue là, que Fitzgibbon et Dubé, puis ils ont perdu Lionel Carman aussi. Alors,
oui.
Puis là, il est remplacé aussi par Mme Bélanger. Là,
oui, alors, Sonia Bélanger. Ça sonne comme une fille qui nous servait un hot hamburger au restaurant à Charlebourg.
Marie-Antoinette.
Oui, c'est ça. Sonia Bélanger! Hey, Sonia! M'a de prendre un hot hamburger! Alors, Sonia Bélanger, la nouvelle ministre de la Santé.
Mais si Christian Dubé avait vraiment voulu faire mal, cependant, à CAQ, il n'aurait pas quitté à ce moment-là. C'est parce que là, il a quitté un vendredi, tout juste avant Noël. Les gens ont la tête ailleurs. Je pense qu'il y avait quand même de quoi d'organiser un peu à l'interne pour dire, regarde, je m'en vais. Je suis choqué, je vous le dis, je m'en vais, mais je ferai pas tant mal que ça parti. Moi, quand je me recule, cependant, c'est que là, tu regardes l'image, la grosse image. Fitzgibbon n'est plus là. Carman a quitté, il va peut-être revenir, mais en tout cas, il a quitté pour le moment. Là, Dubé quitte. Tu disais que... qui déjà t'a ajouté... Girard ne se représente pas.
Non.
Ça, on est pas mal sûr de ça. Puis quel gros nom que j'oublie. Me semble des proches de François Legault. Peu importe, mais j'ajoute un. Tout le monde dit que c'est une plante verte, c'est correct, là. Mais Sylvain Lévesque qui a annoncé qu'il ne se représentait pas à la prochaine élection. Sylvain Lévesque a toujours été le gars à Legault. Le gars qui suivait Legault partout où il allait. Quand il s'est joint au PQ à l'époque, puis qu'il s'est présenté pour le PQ, il se présentait parce qu'il croyait en François Legault, qui était encore au PQ. Puis quand il a formé à CAQ, il était un des premiers à dire hey, « moi, je te suis ». Fait que là, c'est les... Je peux dire, la garde rapprochée ou les suiveurs depuis toujours de François Legault.
Les batteurs de Legault qui s'en vont.
Oui, qui quittent. Le seul qui reste, en fait, là, si lui il quitte dans la prochaine année, commence à vous poser des questions, c'est Koskinen.
Oui, ça, ce serait le signal tout à fait que M. Legault s'en va aussi, là, parce que ils sont vraiment très proches. Là. Mais tu as raison, M. Lévesque, ben écoute, les députés sont pas fous, ils lisent les sondages comme tout le monde. Hein?
Oui.
Alors, tu sais, est-ce que là, les gens se calculent, là, est-ce que je me représente, dire est-ce que je fais la prochaine campagne, puis est-ce que j'ai des chances d'être réélu? C'est ça leur calcul, là. C'est ça qu'ils vont parler dans le temps des fêtes, là, puis ça s'en vient vite, là, tu sais. Le printemps, l'été, après ça, on est en campagne électorale. Alors, ils ont des décisions à prendre. Ça ne m'étonnera pas qu'on voit plusieurs départs. Là,
mais surtout pour les plus jeunes. Tu sais, la meilleure façon de ne pas perdre la tête en politique, c'est de ne pas perdre d'élection. Et si tu ne veux pas perdre d'élection, tu ne te présentes pas. Parce que, tu sais, je vous confirme que, par exemple, des Simon-Jolin Barrette ou des Geneviève Guilbeault, ça va être compliqué la réélection. Là.
Ouais.
Et de partir de la politique suite à une défaite électorale, ça complique le retour.
Oui, tout à fait. Puis il y a aussi un calcul de fonds de pension là-dedans. Là,
oui.
Il y a des gens qui vont calculer j'ai combien d'années de fête, puis est-ce que j'ai droit à une pension. T'sais. Tout ça rentre en ligne de compte.
Oui.
Alors, mais c'est clair que, à moi, mais tu sais, les sondages peuvent bouger rapidement. Moi, écoute, la grosse question, c'est toujours la même. Est-ce que M. Legault reste ou pas? Là,
oui.
C'est la grande question. Là. Il a donné des signes tout récemment qu'il allait rester, là, toutes les entrevues qu'il a données.
C'est ce qu'il dit.
Mais c'est-tu juste pour sauver la face, puis disons, faire donner un dernier coup? Puis,
mais...
Je te convainc qu'il peut encore le faire.
Ce ne sera pas la première fois qu'il nous dit quelque chose une année puis qu'il fait l'inverse l'année d'après. Là.
En effet.
Ben, pour revenir sur Christian Dubé, M. Legault il semble avoir été surpris de la démission de Christian Dubé.
Oui, moi aussi, j'ai trouvé le communiqué laconique.
Puis il a dit en entrevue, parce qu'il avait dit deux, trois jours avant, je pense à Paul Larocque, il avait dit, écoutez, non, Christian Dubé, on se parle tous les jours, etc. Puis là, il dit que, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est qu'il a appris le matin, c'est Christian Dubé, il l'a appelé en disant, je veux te voir aujourd'hui. Ouais. Et à 2 h l'après-midi, il a mis sa démission. Il avait l'air comme surpris. J'ai l'impression qu'il espérait sauver son ami Dubé, là, puis sauver le soldat Dubé, mais il n'a pas réussi.
Non, effectivement, le soldat Dubé, il a sauté avec le pont. Tout ça fait qu'on a 9 députés indépendants. Ça paraît le fait qu'on donne plus à la prime en démission. Hein? Les gens se cachent derrière la grande vertu. Je veux pas qu'il y ait d'élection partielle dans ma circonscription. Mais dans le fond, on le sait bien que c'est le bonus, ça. Le bonus, ça aide pour beaucoup. Là,
je crois que justement, Christian Dubé, il me semble qu'il s'en fout de ce bonus-là.
Ben, possiblement que Christian Dubé s'en fout, mais il y en a 9.
Les autres, non.
Ben, tu sais, Christian Dubé, je pense qu'il serait parti vendredi passé. Là.
Ouais.
Parce qu'il ne veut pas d'élection partielle. Ouais. Il veut quand
lui,
même...
je le pense, ça se peut que ça soit
et
vrai.
Si proche de l'élection générale, tu sais, dire, regarde, là, c'est quand même, ça coûte 500 000 une élection, puis il y a toujours le... Alors, tu sais, je pense qu'il doit se dire, bon, je vais me rendre jusqu'au mois de juin, puis après ça.
Mais c'est quand la limite? Parce que, je veux dire, à un moment donné, t'as un délai, je pense, de 6 mois au moins
avant d'être.
Fait qu'on est proche, là. Tranquillement, ouais, pas vite, là. Si tu quittes en février, il n'y en aura pas de.
Pour avoir
d'élection.
Le bonus, il ne faut pas que tu quittes.
Non, non, ça, je sais. Mais je parle pas de
Vincent Marissal, selon moi, Vincent Marissal.
Il veut
moi,
son bonus.
Il veut le bonus.
Oui.
Là. La majorité des. Mais 9 députés indépendants, c'est malade, là.
Ben, ça ne s'est jamais vu, là. Écoute, je me rappelle toujours qu'il y a 2-3 députés indépendants, tu sais, mais là, on est rendu à 9, là. C'est incroyable, là. Puis pour toutes sortes de raisons, là, tu sais. Mais ceci dit, moi, je trouve que ça fait une nouvelle dynamique. Là. Il y a quasiment un parti des ex. Là. Alors, ça fait une nouvelle dynamique à l'Assemblée nationale.
Ils ont fait un point de presse commun. Toutes les partis font des points de presse de fin d'année. Là. Ils ont fait un point de presse commun. C'est pas tout le monde qui était là. Marois Risky n'était pas là, entre autres. Puis je pense... Marissal, Marissal et Yuri Chassin
ensemble,
avaient le même point de presse ensemble. Là.
Puis Marois Risky, ça, c'est une autre belle affaire. On va voir si ça va revenir dans le Parti libéral en 2026. Mais le Parti libéral, qui quand même était en pleine course à la chefferie à pareille date l'an passé avec Marc Tanguay comme chef intérimaire, ont eu un nouveau chef, boum! On revient un an, jour pour jour plus tard, on a encore Marc Tanguay comme chef intérimaire. Parti libéral, comme quoi, hein?
C'est une belle année perdue. C'est le pompier des circonstances. On peut toujours compter sur lui.
On ne se lancera pas tout de suite dans les grandes prédictions de 2026.
Est-ce que Marois Risky va revenir à l'Assemblée nationale dans les prochains mois?
Ben, peut-être. Je pense que oui.
À l'Assemblée nationale,
oui.
Oui,
ça va même. En même temps, ça va lui permettre de sauver un peu la face de son chum en se représentant. Ça va lui permettre lui aussi de pouvoir y retourner. Je ne sais pas. On verra. Là. Ça se peut qu'il ne l'aime pas. Ça se peut qu'il dise, sais-tu quoi, Marois? Reste dans la maison. Ça va faire pareil. Et tu m'as demandé tantôt si j'avais vu la vidéo de Bruno Marchand sur les médias sociaux. Oui, je l'ai vu. Et ça n'a pas de bon sens. C'est l'anneau de Sauron.
L'anneau du pouvoir qui lui serre trop la tête, là, ça n'a pas de bon sens.
C'est l'anneau de Sauron en montage TikTok. Allez voir ça. Ça a été publié le 19 décembre dernier. C'est tout. Merci, Donald. Joyeux Noël, la famille, les amis. J'imagine que le Père Noël va passer chez les Charrettes parce que Donald fait les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat. C'est sûr qu'il va passer.
Ah, ils ont été faits hier, là.
Ils ont été faits hier, parfait. Merci, Donald. Joyeux Noël.
Morel. Wow. Restez là. On revient dans pas long. Live. Radio-y.